J'ai des sources d'inspiration, des femmes célèbres et célébrées, des femmes à la capitale ou à l'étranger, des actrices, des artistes, des journalistes, des militantes, des activistes, des autrices, des sportives. Et c'est en me faisant cette réflexion que parallèlement, je repensais à ma mère, à mes grands-mères, à ces figures de femmes que j'avais sous les yeux tous les jours, celles qui m'entourent, qui m'ont bercée en me contant leur vie. C'est en songeant à leurs combats, leurs envies, leurs idées, leurs projets, que je me suis dit que de nombreuses femmes de nos territoires devaient être mises en valeur. Leur quotidien fait qu'elles sont des femmes d'exception et j'aimerais vous les présenter. Bienvenue chez les femmes de chez moi. Bonjour chères auditrices, cet épisode est le deuxième d'une série de trois dans lesquelles mes invités m'ont été présentés ou recommandés. Comme Alicia et Pauline dans le précédent, il s'agit aujourd'hui de Valou et Abby. En effet, Valeria Nayaïvou-Kozavlevitch m'a parlé de sa coéquipière Abigail, de son association, des causes qu'elle défend. En me renseignant, j'ai découvert une très belle ambition et évidemment une détermination fascinante. Alors ensemble, on a parlé du Sénégal, de diplôme et de pôle espoir, de colorisme, de basket et de racisme systémique. Et si la phrase n'est pas prononcée dans cet épisode, je trouve qu'il pourrait pourtant se résumer à cette maxime féministe, l'intime est politique. Bienvenue dans ce 27e épisode à la rencontre d'Abigail. Bonjour Abigail, merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors nous reprenons les enregistrements en ligne, d'où la qualité sonore de cet épisode. J'espère cependant, très chers auditeurs, que ça vous conviendra. Alors Abby, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on vient d'entendre et me dire ce que ça raconte de vous ?
Alors tout d'abord, bonjour Margot. Je suis contente d'être parmi vous tous hein, qui nous écoutez. Alors ce premier choix, en fait, c'est une musique que j'aime beaucoup de Youssou N'Dour, donc un très grand artiste sénégalais qui est connu à l'international. Il est extrait de son dernier album et c'est une musique qui me donne vraiment la pêche, qui me donne envie de danser et qui surtout me rappelle le Sénégal, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi.
Le Sénégal, c'est le pays d'origine de vos parents, et j'ai cru comprendre que vous baigniez dans une double culture depuis toujours. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce rapport que vous entretenez avec les cultures françaises et sénégalaises, et comment elles s'articulent un petit peu dans votre vie ?
Alors, c'est un rapport qui est très sain, entre guillemets. Pour moi, il n'y a vraiment pas de paradoxe entre les deux, c'est-à-dire que je suis autant sénégalaise que française parce que je suis née en France. Et que forcément, donc j'ai grandi dans la culture française, donc notamment à l'école, dans mon éducation mine de rien, parce que même si mes parents viennent du Sénégal, ça fait assez longtemps qu'ils sont installés en France. Et puis sénégalaise, bien sûr, de par mes racines, de par mes parents, de par le sang qui coule dans mes veines. Donc moi, le Sénégal, c'est un pays que j'affectionne tout particulièrement parce que toute ma famille y réside quasiment. Et puis surtout, quand je mets le pied au Sénégal, c'est comme si je me reconnectais en fait à moi, à mes ancêtres, quoi, à mon sang, à ma vie. Ça me fait toujours du bien de retourner au Sénégal. Donc vraiment un rapport sain. Je suis vraiment contente d'avoir aussi cette double culture-là parce que mine de rien, ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit très jeune. Le fait d'être confrontée constamment à ces deux cultures, à la maison, à l'extérieur et tout ça, ça m'a forcément donné une ouverture d'esprit qui aujourd'hui me sert dans la vie.
Ça va être ma question suivante sur l'apport justement de cette double culture. Donc c'est essentiellement ce côté ouverture d'esprit.
Oui, et puis aussi pas que ça, parce que c'est tellement une culture, c'est tellement vaste, et puis surtout on pioche ce qu'on veut ces cultures-là. Et moi, en ayant la double culture, j'ai aussi le choix de piocher entre guillemets entre deux cultures et de prendre ce qui me convient le plus et de laisser ce qui me convient le moins du coup.
Alors Abby, vous êtes tellement attachée à ce pays, le Sénégal, que vous y avez créé un camp par le biais de l'association que vous avez également créée, qui s'appelle Terangabi. Oui. Avant qu'on s'y intéresse, est-ce que ça veut dire quelque chose en particulier ?
Oui, alors en fait, la Teranga, ça veut dire l'hospitalité en Wolof. Donc le Wolof, c'est la langue la plus parlée au Sénégal. Donc le Sénégal est connu pour être un pays très chaleureux, où les gens sont traditionnellement, bien accueillis. Et donc Terangabi, donc c'est un genou avec mon prénom et ça veut dire aussi l'hospitalité.
Ok.
Donc voilà.
Très bien. Et je me suis demandé parce que en cherchant un petit peu, j'avais pas trouvé. Donc je suis contente d'avoir l'explication. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer
Comment et pourquoi vous avez décidé de créer cette association avant qu'on s'intéresse à ce que vous faites avec?
Alors, cette association, en fait, c'est une association française. Donc, je l'ai créée à peu près 2 ans. Donc, les actions ont lieu principalement aujourd'hui au Sénégal. Et donc, pour moi, c'était vraiment une nécessité de créer cette association-là parce qu'on permet à des jeunes filles déjà de participer à un camp de basket. Donc, moi, le basket, c'est mon métier, c'est ma passion. Donc, c'est aussi une source, une façon pour moi de partager aussi mon expérience. Et à côté, on en a fait un camp éducatif. Donc, on fait pas que du sport. Il y a aussi pas mal de thèmes qui sont abordés avec des professionnels de la santé. Donc, voilà.
Vous aviez cette envie de créer quelque chose là-bas, d'où l'idée de cette association et de ces camps ensuite?
Oui, bien sûr. En fait, moi, je suis retournée au Sénégal donc en 2017, après 15 ans sans y avoir mis le pied. Et donc, moi, voilà, quand j'y suis retournée, je me suis dit, bon, c'est mon pays d'origine, ça fait 15 ans que... Je ne l'ai pas visité, mais voilà, j'ai encore ma famille qui est là et il faut que grâce à mon statut d'athlète, en fait, j'ai besoin de partager quelque chose avec les jeunes sénégalais qui sont passionnés également par le sport, qui sont des jeunes filles comme moi et surtout des filles j'arrivais vraiment à me voir à travers ces filles-là. C'est-à-dire que quand j'ai visité le club de basket de la ville de mes parents et que j'ai vu les jeunes filles présentes, bah je me suis vue. Voilà, c'est des petites filles qui me ressemblent. Hein. Je suis sénégalaise, donc c'est pas des visages que j'ai l'habitude de voir constamment en France. Et donc du coup, voilà, je les ai vues. Ça m'a vraiment donné envie de faire quelque chose là-bas, d'apporter ma pierre à l'édifice dans, entre guillemets, la construction de la génération de demain du Sénégal. Parce que même si je vis ici, bah, j'ai pour ambition quand même de rester connectée à mon pays d'origine et de faire des choses là-bas également.
Ce camp, vous l'avez mis en place la première fois en 2018, il me semble, c'est ça?
C'est ça.
Ok.
Lors de l'été 2018.
Pardon?
Lors de l'été 2018.
Ok. Mmh. Et il y a eu une seconde édition en 2019, c'est donc sur la ville de Thiès. Et vous avez donc choisi d'utiliser le sport, votre outil de travail, le basket, pour... sensibiliser des jeunes filles et les aider dans leur émancipation. Est-ce que j'ai juste et est-ce que si c'est le cas, vous pouvez un petit peu nous parler de cette aventure?
Oui, alors c'est tout à fait ça. On utilise le sport comme moyen d'émancipation. Donc le sport, on va dire que au début, c'est un prétexte en fait pour aborder ces jeunes filles-là. Ça nous permet de toucher vraiment une population de filles qui pour moi est vraiment intéressante parce qu'elles ont le statut d'athlète. Les athlètes dans la société sont plutôt bien vus en général. Ce sont des jeunes filles qui sont motivées, déterminées de par cette passion pour le sport qu'elles ont. Et donc pour moi, d'utiliser le basket, c'était aussi un moyen plus doux, entre guillemets, de faire passer des messages. On ne fait pas venir des filles, on ne les fait pas asseoir sur une chaise et puis écouter pendant des heures et des heures des personnes âgées leur faire la leçon, entre guillemets. Mais vraiment, autour de ce camp de basket, on leur permet donc à la fois d'avoir une activité sportive, donc sous forme d'entraînement, sous forme de tournoi, mais également voilà de couper tout ça par des moments un peu plus solennels à travers des ateliers pédagogiques, ludiques et des professionnels de la santé en fait qui viennent et qui les sensibilisent sur des thèmes très importants comme la confiance en soi, l'estime de soi et puis surtout un focus vraiment particulier sur un phénomène qui est très répandu au Sénégal et qui est la dépigmentation volontaire de la peau. Voilà.
Alors on va s'y intéresser parce qu'effectivement, d'après la BBC, c'est un chiffre que j'ai trouvé sur leur site, au Sénégal, 71% des femmes s'adonnent à cette pratique de la dépigmentation. Pourquoi vous avez eu envie de lutter et de parler à ces jeunes femmes de ce fléau en particulier?
Alors juste pour revenir sur les chiffres, donc la BBC donne 71%. Moi, l'OMS, j'ai vu 30%, donc on voit qu'il y a quand même un gros décalage.
Oh, okay,
mais moi, personnellement, je conteste un peu le 30%. Ça me semble vraiment un peu pour ce que j'ai vu avec mes propres yeux.
Ouais. Et,
parce que bon, je pense que c'est bien plus d'une femme, de 3 femmes sur 10, bah, c'est sûr.
Juste, moi, la source, là, je l'ai là, et c'est un reportage qui date du 31 octobre 2019, donc
Ouais, qui est relativement récent. Bah, les chiffres de l'OMS sont récents aussi, mais bon, j'ai pas compris. J'ai vraiment été très, très surprise en les voyant. Mais pour revenir à la question, pourquoi le choix de la dépigmentation? Parce que, bah, clairement, c'est un phénomène de société, un phénomène néfaste, tant sur le plan mental, psychologique, que sur le plan de la santé, physique, je dirais. parce que les répercussions en fait sont désastreuses. C'est-à-dire que les femmes qui s'abonnent à ces pratiques-là s'exposent à des maladies telles des cancers de la peau, telles du diabète, des maladies cardiovasculaires, etc., etc. Et aussi d'un point de vue psychologique, ça nous dit beaucoup aussi sur la confiance qu'ont ces femmes en fait en elles-mêmes, parce que malheureusement le fait de vouloir se dénaturer, de quitter ce qui nous représente en premier, c'est-à-dire la couleur de peau, pour tendre vers des standards de beauté qui sont, on va dire, dictés de toute façon, ça révèle quand même d'un vrai problème au niveau psychologique. Et moi, c'est vraiment un aspect que je souhaite qu'on en traite durant les camps. Donc, il y a une psychologue qui vient. Sur les deux éditions, il y a une psychologue qui est venue à la rencontre des jeunes filles pour leur dire qu'effectivement, il y a des problèmes. Donc, telles toutes les maladies que j'ai expliquées. Mais surtout, en fait, il faut aborder ce côté psychologique-là parce que les gens n'ont pas forcément conscience, parce que c'est tellement subtil, en fait, les messages qui passent tous les jours à la télé, à la radio, et qui font la promotion de la dépigmentation de la peau, que les gens ne se rendent même pas compte que parfois, c'est même pas une volonté, mais c'est surtout un suivisme. C'est quelque chose qu'on fait automatiquement parce que c'est devenu la norme, malheureusement, pour beaucoup de femmes.
Oui, j'ai relevé sur le site une petite phrase qui vous expliquait vouloir véhiculer des critères de beauté non occidentalo-centrés, pardon, c'était pas évident à dire.
Oui, parce qu'en fait, de par la mondialisation aujourd'hui, donc on connaît tous les effets positifs de la mondialisation, mais aussi certains aspects malheureusement qui sont néfastes pour moi, comme le fait de véhiculer des critères de beauté uniques. Donc aujourd'hui, les critères de beauté qui sont diffusés dans le monde, ils sont occidentalo-centrés. Donc comme c'est écrit, c'est-à-dire ce sont des critères entre guillemets adressés aux femmes blanches. Et ces critères-là, on peut pas les transposer en Afrique, en Asie ou en Amérique latine parce que les populations sont différentes. Et malheureusement, aujourd'hui au Sénégal, c'est sûr que dans les publicités, on voit pas des femmes blanches, mais on voit des femmes noires, très claires de peau, donc soit qui le sont naturellement, donc ce sont des publicités mensongères, ou bien des femmes qui se sont blanchies. Donc ce sont ces femmes-là qu'on met en avant avec des cheveux souvent lisses, des critères de beauté en fait qui ne sont pas du tout représentatif des populations locales. Et les filles, pour se sentir belles, pour répondre à ces dictates-là, parce que en soi, toutes les femmes dans le monde sont exposées à des dictates de beauté, et ça donne à ce genre de pratiques néfastes pour leur santé.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a le fait de renier un petit peu complètement, son identité, mais il y a également cet aspect sanitaire qui est dramatique,
bien sûr, parce que quand on sait que ces femmes-là, elles ont plus de risques de développer des diabètes, des cancers de la peau, des mycoses égales, faut absolument qu'elles en prennent conscience. Et puis, vraiment leur donner toutes les options qui s'offrent à elles, parce que c'est bien aussi de pointer du doigt ce qui n'est pas bien, mais aussi il faut leur dire qu'il y a des marques qui existent sur le marché, des marques locales, des produits locaux qui prennent soin de vos peaux, qui vont vous embellir, vous aider à vous embellir en tout cas, et puis tout en restant vous-même, quoi. Vous n'avez pas besoin de prendre un autre aspect pour être jolie, parce que là, du coup, clairement, c'est une dénaturation de soi.
Oui, ça, c'est un des autres piliers de l'asso. Ça faisait partie des trois petits points, je crois, qui étaient en haut de la présentation. Encourager l'acceptation de sa propre singularité avec la confiance. Exactement. Et l'estime de soi. Effectivement, c'est capital. Et puis ça rejoint un petit peu aussi l'ensemble des luttes féministes aujourd'hui, sur tout ce qui est confiance et estime. Il y a encore énormément de travail, et encore plus avec les femmes racisées.
Oui, bien sûr. Ce problème-là de femmes racisées, c'est surtout en Europe, du coup. En fait, dans les endroits, elles sont pas en majorité. Au Sénégal, ce serait pas vraiment la même approche, parce que là, on parle pas de femmes racisées parce qu'elles sont toutes noires. Ouais. Donc, c'est un autre environnement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les femmes africaines, en tout cas celles qui se dépigmentent la peau, parce que c'est pas le cas de tout le monde, quand même, il faut quand même le souligner, qu'elles prennent conscience des enjeux qu'il y a derrière, et que surtout qu'elles comprennent que elles n'ont pas besoin, quoi. On est très bien comme on est. Il n'y a pas besoin de se blanchir, et surtout de nuire à sa santé pour pouvoir être belle.
Les sujets que vous traitez avec Terangabi, c'est des sujets qui sont fondamentalement politiques. Vous avez intégré un programme dédié aux sportifs de haut niveau à Sciences Po. C'était en 2015. Est-ce que ça vous a aidé pour mettre en place ce projet Terangabi?
Alors honnêtement, là comme ça, j'irais non. Après, c'est sûr qu'avec tout le travail qu'on demande de fournir dans ce programme-là, tant sur le travail de réflexion que sur le travail de rédaction, donc forcément ça m'a forcément inspiré, ça m'a forcément influencé, parce que ça a vraiment développé mon esprit critique. Hein. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien penser, réfléchir et essayer d'ouvrir mon esprit au maximum. Mais je pense que bien sûr cette formation-là, elle m'a apporté quand même cet aspect critique, le fait de pouvoir, quand je défends cette cause-là, argumenter et de surtout le faire avec conviction. Et ça c'est important, parce que quand on défend un projet, il faut surtout avoir de la conviction. Sans conviction, on peut même pas sensibiliser en fait son public, quoi. Les gens ne s'intéressent pas s'ils sentent que vous n'êtes pas passionné par ce que vous dites, ou tout simplement que vous n'y croyez pas. Donc, je pense que ça m'a aidé sur ces côtés-là, ouais.
Et est-ce que dans le choix du cursus, le fait que ce soit politique, ça vous a décidé à vous tourner vers Sciences Po? Parce qu'il me semble que vous aviez commencé une fac de droit.
C'est ça. Alors j'ai choisi Sciences Po, bon, honnêtement au début pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que ce programme il est dispensé spécialement aux sportifs de haut niveau, et surtout Sciences Po c'est une très grande école, donc en ressortir diplômé, ça ouvre toujours des portes. Donc moi au début, quand j'ai su que ce programme existait et que surtout il me permettait de continuer à m'entraîner sereinement sans avoir à penser aux examens que j'ai à rendre, etc., je me suis tout de suite tournée vers cette option-là, et puis je le regrette pas du tout, parce qu'aujourd'hui j'en suis diplômée, j'ai beaucoup appris durant ces 5 ans, j'ai eu le temps de passer tous mes examens sans vraiment de pression, parce que j'ai pris 5 ans pour valider entre guillemets 3 années de programme, donc clairement c'est adapté pour les sportifs de haut niveau, donc c'est vraiment la première raison pour laquelle je me suis tournée vers ce programme-là, et puis aussi surtout parce que j'aime beaucoup les matières qu'on apprend là-bas, quoi. C'est-à-dire que c'est multidisciplinaire, donc ça nous permet de toucher un petit peu à tout, et puis notamment sur des sujets politiques, et moi c'est tout ce qui m'intéresse.
Alors justement, moi Abby, du coup j'aimerais bien avoir votre regard sur ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, sur ce qui se passe tout court aujourd'hui, la question de la visibilité des personnes noires, du racisme systémique, sont au cœur de nombreuses affaires en cette année 2020. Comment vous regardez ça, vous?
Moi je suis cela de très près, parce que je suis concernée. Déjà, je suis une femme, et en plus d'être une femme, je suis noire. Donc du coup, il y a entre guillemets cette double peine. Ouais. Et aujourd'hui, bon, je vis pas du tout comme une double peine. Hein. Je suis très fière d'être une femme et noire à la fois.
Oui.
Mais je veux dire, par rapport au regard de la société, en tout cas de la société française, c'est sûr que c'est pas sans conséquences. Aujourd'hui, de par mon statut de sportif de haut niveau, je pourrais penser en être épargnée, mais on reste quand même des femmes dans la société au quotidien, des femmes noires. Et donc ça, moi je suis vraiment les activistes qui se battent en fait pour cette cause-là, et notamment des femmes comme Rokhaya Diallo ou encore des blogueuses beauté comme Fatou Ndiaye, Black Beauty Bag. Ce sont des femmes vraiment, moi, que je suis, qui m'inspirent et qui m'aident aussi à avoir un regard vraiment critique par rapport à tout ça, parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui nient ces réalités du racisme systémique, du sexisme aussi. Et malheureusement, c'est une triste réalité. Moi, je suis française, donc je pense que je sais de quoi je parle. J'ai grandi dans ce pays-là, et je sais que lorsqu'on est noir et qu'on est une femme, on n'est pas traité pareil que lorsqu'on est un homme et qu'on est blanc. Donc ça, c'est des réalités. Et pour pouvoir les changer, ces réalités-là, il faut en prendre conscience. Et tant que les gens, en tout cas les personnes qui gouvernent ce pays, tant que les personnes qui ont le pouvoir dans ce pays, continuent à nier ces réalités-là, malheureusement, on ne pourra pas avancer. Et puis voilà, et puis surtout aussi le fait de nier en fait entre guillemets les races, les choses comme ça. Oui, les races n'existent pas au sens biologique du terme, mais on sait très bien que d'un point de vue sociologique, elles existent, et malheureusement c'est pour ça qu'il y a encore ces types de discrimination basées sur la couleur, sur le genre, etc., etc.
Et lorsque l'on se situe au croisement de ces discriminations, lorsque l'on est à la fois victime de racisme, de sexisme, de validisme, d'homophobie ou toute forme de ségrégation imaginable, on appelle ça l'intersectionnalité. Un concept théorisé en 1989 par la grande Kimberlé Crenshaw, chercheuse, professeure et autrice, dans son article écrit pour le Forum juridique de l'Université de Chicago, intitulé « Démarginaliser l'intersection de la race et du sexe, une critique féministe noire de la doctrine de l'antidiscrimination, de la théorie féministe et de la politique antiraciale ». Dans cet article, nous précise Wikipédia, elle livre une étude mettant en lumière les discriminations dont sont sujettes les femmes noires et précaires aux États-Unis. Aujourd'hui, l'intersectionnalité occupe une place centrale dans les mouvements féministes et, soit dit en passant, il est impossible d'imaginer un féminisme excluant ou réservé à une seule catégorie de population. Logique, non ? Fermons cette parenthèse, revenons à Abigail qui, en tant qu'athlète, mais en tant que citoyenne avant tout, veut contribuer à une évolution des mentalités sur ce volet aussi.
Bah, évidemment, oui. Après, bon, moi, plus que de le faire en tant qu'athlète, je le fais en tant que personne, en tant que femme noire. Moi, c'est des sujets que j'hésite pas à, parler lorsque je suis avec des gens qui les nient ou tout simplement qui font des réflexions déplacées. Parce qu'à un moment donné, je pense que si les gens ne veulent pas s'éduquer, bah, faut les éduquer au bout d'un moment. Parce que moi, quand j'entends des personnes faire des blagues soi-disant marrantes, mais pour moi qui ne le sont pas du tout, bah, je me permets de les remettre à leur place. Parce que le problème, c'est que les mots sortent de leur bouche, mais c'est moi qui les reçois. Et donc je pense que c'est important de remettre les gens à leur place et de les éduquer dans un premier temps avec bienveillance si vraiment ils en ont pas conscience, mais ensuite ne pas hésiter à taper du poing sur la table si les gens vraiment persistent et ne veulent pas comprendre.
Après, éduquer c'est aussi assez épuisant, il y a énormément de...
Non, c'est épuisant, c'est pour ça que moi je m'attarde plus, parce qu'avant je bataillais avec les gens, ça pouvait me mettre dans des états pas possibles. Au bout d'un moment, ça, je dis hein, premièrement, je le fais de manière assez bienveillante. Si la personne persiste, bah, je peux vraiment m'énerver. Et puis après, au bout d'un moment, on lâche l'affaire parce que nos vies, elles ne tournent pas qu'autour de ça. Moi, je pense que toutes les personnes noires de ce monde aimeraient juste se lever le matin et ne pas avoir à penser qu'elles sont noires, quoi, et juste vivre leur vie. Parce que moi, le matin, quand je me lève, je me dis pas je suis noire. Je pense juste en tant qu'être humain, en tant que femme, avec tout, toutes les nécessités que ça entraîne. Et j'aimerais en fait que un jour, bah, c'est utopique, hein, mais j'aimerais que les personnes noires, les femmes, toutes les personnes, bah, aujourd'hui qui sont discriminées, puissent se lever tout simplement en pensant qu'elles sont des êtres vivants, quoi, sans avoir à se poser d'autres questions et tout ce que ça engendre dans la société.
J'ai lu dans une interview, Abby, que vous privilégiez aujourd'hui de lire des auteurs ou des autrices noires. Alors est-ce que c'est un acte militant ou est-ce que c'est juste parce que... Ben, vous n'avez pas forcément lu d'auteur ou d'autrice noire jusqu'à maintenant.
Non, honnêtement, je vais pas. Non, c'est pas militant du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été avide de lecture et que lorsque j'étais plus jeune, bah, je prenais pas forcément conscience des auteurs que je lisais en fait. Je voyais un livre à la bibliothèque de l'école, je le prenais, je lisais parce que j'aimais bien l'histoire et puis c'est tout. Et puis en grandissant, en prenant conscience de pas mal de choses, je me suis dit bon. Et surtout aussi, ça m'a permis de me reconnecter à mon continent. Je me suis dit, bon, je vais commencer à lire davantage d'auteurs noirs parce qu'ils parlent. Déjà, ça me représente plus, c'est-à-dire que les personnages choisis, les thèmes abordés, bah, je me sens plus représentée dans ces ouvrages-là. Et puis surtout, je me suis rendu compte de la grande richesse culturelle de mon continent, de mon pays, le Sénégal, et ça m'a donné vraiment envie de chercher davantage, de me renseigner davantage sur ma culture, parce que je lis différents types de livres, donc ça me permet aussi, quand je retourne au Sénégal, de ne pas me sentir dépaysée et surtout inconnue à ce pays.
En parallèle de ce cursus à Sciences Po, en parallèle de cette association, vous êtes Abby, basketteuse professionnelle.
C'est
alors,
ça.
Depuis l'âge de 18 ans pour la professionnalisation et depuis l'âge de 12 ans pour la pratique sportive.
C'est ça.
Et a priori, c'était pas forcément... votre truc, le basket.
Non, vraiment pas. C'est-à-dire que le basket pour moi c'était, je sais pas ce que ça représentait vraiment, mais c'est, je m'y voyais pas du tout. C'était pas un sport qui m'attirait à première vue. Et puis vraiment, comme quoi le destin, du jour au lendemain, j'ai décidé de faire du basket en fait. Je mesure 1,82 à 12 ans.
Ça c'est incroyable. Vraiment, pardon, mais
ouais, c'est incroyable. Ouais. Quand je le dis à chaque fois, ça me surprend.
C'est un peu halluciné.
Parce que mon frère a bientôt 14 ans et bah il fait à peine 1,80, donc je me dis que j'étais vraiment très très grande. Donc ouais, j'avais vraiment des prédispositions et puis il s'avère que voilà, très rapidement j'ai été détectée et puis ça s'est enchaîné très très rapidement.
Et donc aujourd'hui, on va peut-être pas faire passer toute votre carrière en détail. Juste, on va peut-être se concentrer sur Basketland et ce club qui vous a amené dans les Landes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est fait, comment c'est organisé votre arrivée à Basketland?
Alors, donc moi, j'évolue au club de Tarbes, pas très loin d'ici. Mm-hmm. Et puis, j'ai eu l'offre de Basketland qui s'est avérée très, comment dire, très intéressante, pardon, je perdais le mot. Très intéressante sur tous les points, à tous les points de vue, parce que d'un point de vue sportif, c'est vraiment un club qui a de l'ambition. Moi, quand j'ai signé, j'avais 24 ans. Donc c'était vraiment un moment de ma carrière aussi, j'avais de plus en plus d'ambition. Je voulais m'illustrer dans un club plus important que Tarbes. Et puis surtout, de jouer auprès de grandes joueuses comme Céline Jumer, comme Miranda Hym, qui était déjà là depuis un certain nombre d'années, et d'autres joueuses d'expérience, ça m'a vraiment donner envie de signer dans ce club-là. Julie, c'était sa première année en tant que coach, et le message qu'elle m'a fait passer en fait lorsqu'elle m'a eu au téléphone, j'ai vraiment accroché. Je me suis dit, écoute Abby, voilà, c'est une très bonne opportunité pour toi. T'as envie de grandir ce club aussi. Les gens ont envie de t'accompagner aussi dans ton projet personnel. Donc voilà, je pense que toutes les conditions étaient réunies pour que je puisse venir dans ce club.
Et donc vous avez été séduite par l'univers Basketland.
C'est ça, vraiment. Et puis, il y a ce côté famille aussi qui est connu, en fait, en ligue féminine du club de Basketland. Il y a ce public-là aussi, le sixième homme. Donc, vraiment, pas mal de conditions qui donnent envie de venir jouer dans ce club.
Alors, est-ce que, Abby, vous avez découvert la région en arrivant? Alors, c'était Tarbes avant, mais les Landes, précisément?
Alors, en arrivant, j'ai surtout découvert d'un point de vue culinaire. J'aime bien manger. Donc, j'ai la chance de pas mal manger des spécialités locales. J'aime beaucoup le canard, notamment. Non, mais bon, après, visiter, pas vraiment. J'ai visité pas mal les plages, les choses comme ça, surtout. Mais bon, on n'a pas beaucoup de temps, mine de rien. L'année dernière, la saison a été courtée par le confinement. Donc, on a une saison assez courte quand même par rapport à une saison habituelle, donc j'ai pas encore eu l'occasion de bien visiter comme j'aurais aimé, mais en tout cas du peu que j'ai vu, c'est une région qui me plaît.
Alors il y a une question rituelle, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui termine cette première partie, à savoir, j'aimerais Abby que vous m'expliquiez, alors même si vous n'avez pas eu le temps encore de bien explorer, ce que les Landes et le Sud-Ouest vous évoquent.
Alors le Sud-Ouest pour moi, pour me répéter un petit peu, ce que ça évoque pour moi, c'est surtout le côté culinaire.
Ouais, classique.
Donc voilà, classique, hein, on y mange vraiment très bien et tout le monde est d'accord là-dessus. Après, j'aime beaucoup aussi, les gens sont plutôt chaleureux. En tout cas, à Mont-de-Marsan, je sais que partout où je vais, les gens sont souriants, sont sympas. Et ça fait plaisir parce que bon, je pense que c'est toujours bien d'évoluer dans un cadre où les gens sont contents, sont heureux. Après, je pense que le soleil joue pour beaucoup. Il y a un beau climat. Donc voilà, je pense vraiment le côté culinaire et puis la gentillesse des gens.
C'est joli, c'est gentil, ça fait plaisir. Alors Abby, en clôture de cette première partie, je vais vous laisser m'annoncer votre choix musical.
Alors mon choix musical, il s'est penché sur Erykah Badu. Donc une grande artiste que j'aime beaucoup, et sur la musique Green Eyes. Donc c'est pour moi masterpiece de la musique.
remember the last time I felt this way about somebody. You've done something to my mind, and I can't control it. But I don't love you anymore.
Vous êtes bel et bien sur Radio MDM puisque vous écoutez Les Femmes de chez moi, épisode 27, Abigail.
Dans la deuxième partie de cette émission, on s'intéresse à trois souvenirs de l'invité, trois souvenirs qui ont fait de vous celle que vous êtes aujourd'hui. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous donner votre premier souvenir ?
Alors le premier souvenir, ce serait ma... comment dire ? J'ai reçu en fait la lettre qui me disait que j'étais acceptée au Pôle Espoir. Donc j'étais super contente, donc j'avais à peine 13 ans. Et donc c'était vraiment une fierté pour moi, c'était vraiment le début de une première chose accomplie dans ma vie, parce que bon, à 12 ans on est relativement jeune. Et donc là c'était pour moi c'était vraiment inattendu, c'est-à-dire que un an auparavant jamais j'aurais pensé intégrer une telle structure. Et donc j'ai dormi avec le courrier le soir même sous mon oreiller.
C'est le Pôle Espoir basket Île-de-France. Le Pôle Espoir en gros c'est un centre de formation un peu plus intense que que ce qu'on peut faire en club, et c'est pour les plus jeunes. Sachant que vous avez commencé le basket à 12 ans, intégrer un Pôle Espoir à 13 ans, c'est quand même un peu fou.
Bah c'est ça, donc moi je... d'où l'excitation en fait, parce que je savais pas du tout, je mettais les pieds, j'avais pas de famille qui faisait du basket avant moi, j'avais pas de personne de mon entourage qui en faisait, donc qui connaissait ce milieu-là. Moi, je savais juste que je partais de chez moi, donc je partais à l'aventure. Et je savais aussi que j'avais été sélectionnée parmi tant d'autres, donc juste ça, moi, c'était déjà top pour moi à 12 ans. Et puis, en un an, tout a, entre guillemets, basculé, quoi. Je suis passée d'une vie lambda de collégienne à une sportive de haut niveau.
Qu'est-ce que vous diriez que ça vous a apporté, cette première expérience, Abby?
Cette première expérience, je dirais que surtout ça m'a appris à me dépasser, dans ce que j'entreprends. Après bon, c'est relativement court mine de rien et on est vraiment jeune, donc on n'est pas encore développé, quoi. Je veux dire, on n'est pas du tout arrivé à maturité. Mais je sais que, on va dire que c'est vraiment le début du haut niveau, et donc ça m'a vraiment fait une petite introduction à ce qui allait se passer après, donc notamment l'INSEP. J'ai appris à m'entraîner une fois par jour, chose que je ne faisais pas avant, parce que quand on est plus jeune, on s'entraîne au grand maximum 3 fois par semaine. Ce qui est déjà pas mal. Mais là, une fois par jour, on passe vraiment un cran au-dessus. Ouais. Et puis, la discipline, je dirais la discipline, la dureté. Ces qualités nécessaires, en fait, à la pratique du haut niveau.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, maintenant que je suis rentrée au Pôle Espoir, je serai pro?
À ce moment-là, honnêtement, je pense que je n'en avais pas encore vraiment conscience. C'est-à-dire que moi, j'étais entourée de filles qui faisaient du basket déjà depuis quelques années. Moi, ma première année, ça faisait que un an. Donc, j'étais plutôt en mode, faut que je rattrape mon retard, faut que je m'entraîne, que je sois sérieuse. Mais je pensais pas encore vraiment à l'après. Je pense que cette envie de devenir professionnelle, elle s'est vraiment concrétisée quand je suis rentrée à l'INSEP, où là, j'ai vraiment commencé à prendre conscience quand même des choses. À faire des compétitions internationales, à côtoyer des sportifs de haut niveau à l'INSEP qui évoluent dans d'autres catégories. Et puis voilà, là on rentre vraiment dans le moule fédéral et on sait qu'on est parti pour une carrière quand même dans le très haut niveau.
Est-ce que vous pouvez, Abby, nous parler du deuxième souvenir?
Alors le deuxième souvenir, je dirais, bon, il n'est pas très lointain, c'est l'organisation en fait du premier camp Terangabi au Sénégal, donc en 2018. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai préparé toute l'année. Vraiment, c'est, on va dire, la première fois que je mettais vraiment un projet personnel sur table, aussi important. Je me suis découverte, honnêtement, parce que avec du recul aujourd'hui, je me rends compte que voilà, j'avais que 22 ans, que je décide de créer mon association, que je me débrouille vraiment, entre guillemets, du début à la fin, plutôt seule, avec quand même des personnes ressources, mais je faisais quand même le plus gros du travail, donc dans le travail de rédaction, dans le travail de démarchage, dans le travail d'information, etc., etc. Et en faisant tout à distance aussi, parce que le camp, il allait au Sénégal, et moi, il y avait vraiment un point d'honneur pour moi qui était de impliquer le maximum de personnes localement. Je voulais pas venir en mode, entre guillemets, comment je pourrais dire ça, en mode missionnaire,
ouais.
Et venir en fait dicter aux gens ce qu'ils ont à faire. Non, non, j'avais aucune prétention, loin de là. J'avais juste envie, par contre, de mettre en place une initiative qui pourrait servir en fait aux jeunes filles sénégalaises à Thiès. Donc, je me suis appuyée sur des coachs qui les connaissaient, qui connaissaient leur réalité, sur des professionnels de la santé qui connaissaient les réalités aussi sénégalaises. Parce que moi, mine de rien, j'y connaissais pas grand-chose à part de ce que mes parents m'ont transmis. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté quand même pour moi d'avoir mis en place ce camp-là. Et pour moi aujourd'hui, c'est vraiment pas assez. Hein. C'est-à-dire que je me glorifie pas du tout par rapport à ça parce que c'est vraiment loin de ce que j'aimerais faire. C'est vraiment un prémisse. Mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même toujours commencer quelque part. Et ça, c'est pour moi, c'est le début de mon investissement dans le projet Terangabi.
J'ai envie de relever une phrase que vous m'avez écrite, Abby. Je me focalise vraiment sur les actions des gens. C'est tout ce qui reste et compte en définitive. Mmh. En gros, ça rejoindrait un petit peu ce que Monique Lubin disait dans un des épisodes des Femmes de chez moi. Mmh. C'est bien, mais le plus important, c'est quand même faire.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire que moi, en fait, en retournant au Sénégal, je constate une réalité qui est dérangeante, pas que pour moi, parce que j'en parle aussi avec d'autres personnes, qui est le phénomène de dépigmentation de la peau. Et puis après, moi, en partant de ce constat-là, et de tout ce que ça impliquait, donc notamment les questions de confiance en soi, estime de soi, je me suis dit, bon, c'est bien beau de critiquer, Abby, c'est bien beau de critiquer des phénomènes de société, etc. Mais qu'est-ce que toi, en fait, du haut de tes 22 ans, et en tant qu'athlète de haut niveau, tu peux faire? Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir à ce que moi, je pouvais apporter, hein, seulement personnellement, sans prétention, donc c'est-à-dire du sport et de la réflexion aussi, c'est-à-dire réfléchir à ce camp-là et ensuite me rapprocher des personnes qui pourraient m'aider à le mettre en place et qui pourraient apporter leur expertise à ces jeunes filles.
Est-ce que vous avez eu des retours des jeunes filles qui ont participé à cette première et puis à la seconde édition du camp?
Oui, alors j'ai eu beaucoup de retours positifs qui m'ont vraiment fait chaud au cœur et surtout qui m'ont motivée en fait dans le fait de continuer cette initiative-là. Donc moi, par exemple, lors de la deuxième édition, donc les filles de la première édition sont venues soutenir donc le second camp, les jeunes filles qui participaient au camp aussi, et elles ont en fait fait floquer un t-shirt, donc elles portaient tout un t-shirt et elles m'ont fait le même en fait qui disait merci Abby en gros pour le camp Terangabi quoi. Donc on a fait une photo ensemble, etc. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit bon, ça veut dire quand même que ça les a marquées, qu'elles ont apprécié surtout, parce que si elles ont pris le temps de préparer tout ça, c'est que vraiment elles ont aimé. Et puis même les coachs voilà sur place ont beaucoup aimé, des parents sont venus me voir aussi, et puis voilà, j'ai vu quand même que ça avait créé un engouement, et puis j'espère vraiment que c'est que le début, et que surtout cet engouement sera tourné vers le message que l'on veut véhiculer aux jeunes filles.
J'imagine que cette pandémie ne facilite pas les choses. Est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'il y a des choses à faire éventuellement je sais pas, enfin j'imagine que par visio, ça aura jamais le même impact.
C'est vrai. Bah aujourd'hui, en fait, la pandémie, j'essaie de préparer les prochaines éditions sans vraiment y penser, dans le sens où pour moi, je pars comme si on allait pouvoir aller au Sénégal et faire ce camp-là. Après, malheureusement, bon, on n'est pas au contrôle de tout. Et si dans un an, la situation n'a pas bougé, que les frontières sont fermées, etc., etc., faudra s'adapter. Et malgré tout cela, en fait, proposer quelque chose. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a les visios, on a le contenu en ligne, mais aujourd'hui voilà, moi dans ma tête, je pars sur l'été 2021, j'aimerais qu'on puisse mettre un camp en place. Alors il y a aussi l'idée de créer une journée en fait, donc qui serait pas intitulée Terangabi, mais en tout cas ce serait une journée qui aurait lieu en France et qui pareil en fait initiative qu'on met en place au Sénégal, bah qui sensibiliserait les filles en fait sur la confiance en soi et l'estime de soi. Après donc là on fera un focus sur des thématiques quand même plus propres à la population bah issue de la région parisienne. Donc on parlera pas forcément de la dépigmentation de la peau parce que c'est peut-être pas des thématiques qui leur parleront directement, quoique. Ouais. Mais en tout cas voilà, on veut permettre pareil à des jeunes filles d'être sensibilisées à travers le sport et puis de créer un espace où les filles peuvent venir s'exprimer et puis surtout en fait s'éduquer entre guillemets sur des thématiques qui les concernent vraiment directement quoi, avec des professionnels toujours.
Bon, un bête d'engagement, ça fait plaisir, Abby.
C'est ça, merci.
Alors, le troisième souvenir, on s'éloigne un petit peu du Sénégal, on revient à Sciences Po Paris. Le troisième souvenir que vous avez choisi d'évoquer avec nous, Abby, c'est l'obtention de votre diplôme il y a quelques semaines à peine.
C'est ça. Alors, j'ai finalement réussi à finir ma formation à Sciences Po, parce que j'en pouvais plus. Depuis 2015, j'ai été donc étudiante au sein de ce programme-là. Et donc, j'en ai profité, en fait, pendant le premier confinement, là, pour charbonner et puis vraiment donner tout ce que j'avais pour pouvoir finir et enfin recevoir bah, ce diplôme-là en octobre, quoi, 2020. Donc, vraiment, la consécration, pour moi, c'est... J'étais contente parce que, mine de rien, j'ai réussi, parce que nombre de fois, j'ai pensé à arrêter, à faire une pause, mais je me suis pas écoutée, j'ai continué. J'ai avancé à mon rythme, mais bon voilà, au final j'ai eu le diplôme en poche et donc c'est un pas de plus en fait dans vers la vie professionnelle et l'après basket.
Oui, c'est ça, parce qu'après les carrières pro, ça s'arrête relativement tôt.
Mm-hmm. Non, c'est clair, bah moi je pense pas passer les 35 ans, donc on y arrive vite, donc voilà, je commence déjà à préparer et puis au-delà même de la préparation de l'après-carrière, c'est surtout j'aime bien bah rester connectée entre guillemets à la vie réelle quoi, c'est-à-dire que les filles de mon âge aujourd'hui bah elles sont encore étudiantes ou elles sont dans le monde professionnel entre guillemets et puis voilà, donc je me dis que c'est aussi un moyen pour moi de rester connectée, de savoir ce qui se passe en dehors des terrains de basket et puis continuer aussi à faire fonctionner mon cerveau quoi.
Ouais, c'est quand même assez important.
C'est important.
Est-ce que il a fallu passer par un mémoire ou quelque chose comme ça pour ce diplôme?
Non, alors en fait, ça fonctionne sous forme de contrôle continu.
Ok.
Donc il y a 20 modules à valider. Donc c'est vraiment c'est souple en fait. C'est vraiment bien parce que comme il n'y a pas de mémoire de fin d'année ou comme il n'y a pas d'examen chaque semestre, bah on peut tout faire à distance. On a la chance d'avoir les profs. Souvent en fait en visio lorsqu'on a des questions, lorsqu'on veut revoir un cours, parce que moi en fait j'ai pas eu la chance d'assister aux cours à Sciences Po, j'ai tout fait à distance. La plupart des élèves de ce programme vont sur Paris et puis sont sur Paris et donc vont directement aussi à Sciences Po Paris et donc eux ont la chance d'avoir les profs, c'est quand même plus facile pour étudier. Et voilà, si j'ai réussi à le faire, donc je pense que c'est faisable quoi.
Alors Abby, on arrive à la fin de cette émission, à la fin de cet épisode. Du haut de vos 25 ans, comment vous regardez ce début de carrière et puis tout ce que vous avez déjà mis en place? Alors je pose la question comme ça, mais normalement je demandais à mes invités de la première saison si elles étaient fières d'elles, mais j'ai constaté qu'elles avaient quand même un peu de mal à utiliser ce terme. Donc je préfère vous demander aujourd'hui comment vous regardez tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant.
Alors bon, je le regarde quand même avec comment dire, avec un certain recul dans le sens où pour moi, il me reste encore beaucoup de choses à faire, à prouver, et puis surtout pour moi, c'est vraiment que le début. C'est-à-dire que je suis en train de construire les bases qui me permettront en fait de m'épanouir là où je veux m'épanouir plus tard, donc que ce soit dans ma carrière d'athlète. Parce que j'ai 25 ans, donc je suis plus toute jeune, mais on va dire que je suis pas vers la fin non plus. Non, mais c'est ma 8e saison en pro, mine de rien. Donc voilà, là je pense que petit à petit, voilà, je construis mes bases sur différents thèmes. Donc là, c'est sur les études, sur le basket, dans le milieu associatif. Et bah tout ça, c'est pour que chaque jour, je puisse avancer et me dire que je suis sur la bonne voie, en tout cas selon mes critères, parce que j'ai appris aussi le temps à m'évaluer selon mes critères à moi et non selon ce que les gens attendent de moi ou ce que veulent de moi. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que j'ai appris petit à petit. Donc, moi, le mot fierté, j'ai pas de, de mal à l'employer parce que je pense que je suis une personne qui, quand elle fait des erreurs ou quand elle n'est pas satisfaite, bah, c'est le reconnaître. Mais par contre, quand je fais quelque chose que j'aime bien et je sais que j'ai travaillé, que je sais que clairement j'ai tout donné pour y arriver et que j'y arrive, bah, j'aime me dire que je suis fière. Donc, par exemple, je suis fière d'avoir obtenu mon diplôme parce que je sais ce que ça m'a coûté. Je suis fière d'être devenue professionnelle parce que je sais aussi ce que ça m'a coûté. Également pas pour l'association. Après, le mot fierté pour moi ne veut pas dire arrogance. Ça veut tout simplement dire qu'on est en mesure quand même de reconnaître ce qu'on sait faire. Et puis c'est aussi bah, une source de motivation du coup parce que quand on sait qu'on a réussi à faire quelque chose, et ben bah, ça nous permet de regarder plus loin et de se challenger en fait pour arriver à faire quelque chose d'autre. Donc voilà.
Merci beaucoup Abigail d'avoir partagé ce moment confiné.
Merci.
Merci à Abigail pour ses actions et son implication dans ces luttes du 21e siècle. Merci à ma chère Valou de m'avoir parlé de cette femme de chez nous. Merci à Nico, à la technique. Et merci à vous, évidemment, d'écouter les femmes de chez moi. J'attends vos retours en commentaire ou dans ma boîte mail.
Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une guerre entre les hommes et les femmes.
We want to end gender inequality.
Mais j'ai l'impression tout de même qu'elles sont moins résignées qu'elles ne l'étaient auparavant.
And to do this.
Métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Il y en a vraiment peu.
We need everyone involved.
À bientôt chez les femmes de chez moi.